Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Ndali Kamala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, la RDC fait de nouveau face à une épidémie d'Ebola en Ituri. Plus de 350 cas suspects ont déjà été enregistrés avec 91 décès probables. Ces chiffres ont été rendus publics ce dimanche par le ministre de la Santé publique de la RDC, le docteur Samuel Roger Kamba, qui séjourne à Bunia pour organiser la riposte. Les FARDC réaffirment leur soutien aux forces engagées dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays et appellent à l'unité nationale. Dans un communiqué, l'armée rappelle que ses troupes, aux côtés des armées ougandaises, burundaises et de la MONUSCO, mènent depuis plusieurs années des opérations conjointes contre les terroristes de l'ADF-MTM et d'autres groupes armés locaux et étrangers. Selon les derniers rapports de l'OMS, l'hypertension artérielle touche un adulte sur trois et tue environ 9 millions de personnes par an dans le monde, ce qui équivaut à plus de 24 000 décès par jour. Cette maladie constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Pour en parler, nous recevons le docteur Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence de Kinkanda au Congo central. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée d'Ebola dans la province de l'Ituri. Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola à survenir au pays. Selon les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80 personnes sont déjà mortes et des centaines de cas suspects ont été recensés. L'épidémie causée par la souche Bundibundio, pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique n'existe, suscite des vives inquiétudes en raison du risque élevé de propagation au-delà des frontières congolaises. Et la Chembalou pour d'autres détails.
À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au nord-est de la RDC, le centre de santé sont débordés par l'arrivée des malades. Selon les autorités, le patient zéro serait une infirmière admise le 24 avril dernier dans une structure sanitaire avec des symptômes caractéristiques de la maladie, notamment la fièvre, le vomissement et les hémorragies. Depuis plusieurs semaines, la maladie se propage rapidement dans cette région frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud, où les structures de santé peinent déjà à répondre à l'urgence. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, le bilan provisoire fait état de 88 décès et de 336 cas suspects. Face à cette crise, l'organisation Médecins sans frontières prépare une intervention d'urgence à grande échelle. L'ONG estime que la vitesse de propagation de l'épidémie est extrêmement préoccupante, surtout après l'apparition des cas signalés au-delà des frontières congolaises, notamment en Ouganda.
Sur place à Ituri, 59 malades d'Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bunia et de Mungwalu, considérées comme les principaux épicentres de cette épidémie. Plus de 350 cas suspects ont déjà été enregistrés avec 91 décès probables. Ces chiffres ont été rendus publics ce dimanche par le ministre de la Santé publique de la RDC, le docteur Samuel Roger Kamba. C'était au cours d'un point de presse tenu à Bunia, après une réunion avec le gouverneur des provinces et les partenaires de santé. Parmi les mesures de riposte annoncées, le ministre a indiqué que trois nouveaux sites de prise en charge sont en cours de construction afin d'augmenter la capacité d'accueil des structures sanitaires face à l'ampleur de l'épidémie. Le docteur Samuel Roger Kamba, ministre national de la Santé publique, au micro d'Isaac Remoyope.
Nous avons déjà déployé la riposte et là aujourd'hui nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment des ressources matérielles mais aussi des ressources humaines du centre d'opération d'urgence de santé publique. Les sites sont déjà choisis, Rampara et puis à Mungwalu et puis ici à Bunia. Ce matin, nous on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce que à cause des malades. Je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement prise en charge actuellement. Au total, nous sommes autour de 350 cas suspects. on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. En termes de décès, 91 décès déclarés, mais ça, ce sont des décès probables. Quand on va bien investiguer, je pense qu'on a moins de décès que ça. Plus vite on va prendre le malade en charge, plus vite on va le soigner, mais plus vite on va arrêter la propagation du virus. Donc ce n'est pas une maladie mystique, le traitement est gratuit. Venez vous faire prendre en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise.
Toujours dans le cadre de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri, l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Programme alimentaire mondial PAM ont déployé ce dimanche 5 tonnes de matériel destiné à la prévention et au contrôle des infections de cette maladie. Selon la représentante de l'OMS en RDC, une quarantaine de professionnels de santé experts du Centre des opérations d'urgence à Kinshasa ainsi que des équipes de l'Organisation mondiale de la santé ont également été déployés sur le terrain. L'objectif de cette intervention est de renforcer la prise en charge des et de sauver des vies humaines. L'OMS appelle par ailleurs les communautés locales à soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires, notamment en facilitant l'identification des cas contacts afin de contenir l'épidémie. Anne Ancia, représentante de l'OMS en RDC, au micro d'Isaac Remoyope.
Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, a fait venir 2 avions. Un avion qui amène 5 tonnes de matériel pour la première réponse. Des kits, des tabliers, des gants, des masques, des chapeaux, pour que les professionnels de santé ne soient pas infectés et qu'ils n'infectent pas eux-mêmes la population. Pour les patients qui arrivent dans les hôpitaux, qu'ils ne soient pas infectés eux-mêmes. Donc nous avons par exemple amené du chlore et du matériel pour bien nettoyer les infrastructures de santé. Troisièmement, nous allons devoir avoir des infrastructures de santé qui sont spécifiquement dédiées à la prise en charge des cas. Nous avons amené des tentes, des matelas, des lits. Il y a plus de 40 experts. Ce que nous avons fait, c'est la première réponse pour sauver et protéger votre population. Maintenant, nous avons besoin de toutes les communautés de l'Ituri. Nous avons besoin que ces personnes nous donnent des informations correctes sur toutes les personnes avec lesquelles ils ont été en contact pour que nous puissions protéger ces personnes.
Cette épidémie qui a commencé dans les zones de santé de la province de l'Ituri se propage très rapidement au-delà de cette province et même du pays. Pour le docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique depuis plusieurs années, ayant travaillé dans le comité de riposte contre la COVID-19 et bien d'autres maladies, il faut investir principalement dans la surveillance à base communautaire ainsi que dans les capacités des acteurs des zones de santé à détecter rapidement de tels phénomènes et mettre en place les premières mesures de contention. Docteur Mouvoudi exprime également son soutien en faveur de la population itourienne. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Si nous avons des zones de santé capables de mettre en place les premières mesures de contention ou de riposte, on va diminuer la vitesse de propagation. Donc encore une fois de plus, vivement travailler sur les réformes de la zone de santé parce qu'en réalité, nous concentrons beaucoup d'efforts à mener des réformes au niveau provincial, au niveau national, donc je vais dire au niveau central, mais nous ne regardons pas beaucoup les réformes au niveau de la zone de santé. Donc là, c'est l'occasion encore une fois de plus, de travailler davantage pour capaciter les zones de santé, pour capaciter la base, parce que la zone de santé reste le socle, n'est-ce pas, des soins de santé primaire. Deuxièmement, c'est vraiment l'occasion ici d'inviter nos populations à participer à la lutte. Vous le savez très bien, on a des exemples, les gens, on en a parlé plusieurs fois depuis les épidémies passées et même très récemment avec la pandémie de la COVID-19, nous avons insisté sur le rôle de la population dans les mesures de riposte. Donc il est tout à fait capital que lorsqu'on mettra en place ces mesures de riposte, que la population soit au cœur par une communication pour le changement de comportement.
Dans un autre registre, les FARDC expriment leur soutien et leur reconnaissance à l'ensemble des autorités militaires, des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux forces partenaires engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme, notamment dans la partie orientale du pays, où la menace demeure persistante. Dans un communiqué publié ce dimanche, l'armée salue l'engagement des différentes unités mobilisées sur le terrain et appelle à l'unité nationale et à la cohésion face aux défis sécuritaires. Martial Papi Moukeba pour les détails.
Dans ce communiqué, l'armée rappelle que ses troupes, aux côtés des armées ougandaises, burundaises et de la MONUSCO, mènent depuis plusieurs années des opérations conjointes avec courage, détermination et sacrifice contre les terroristes de l'ADF-MTM et d'autres groupes armés locaux et étrangers. Ces opérations visent à protéger les populations civiles, restaurer la paix et garantir la sécurité dans les zones concernées. Les FRDC estiment que ces missions méritent respect et considération, tout en disant avoir constaté avec préoccupation certaines déclarations publiques jugées de nature à discréditer ou à semer les doutes sur les efforts des forces engagées. Sans remettre en cause la liberté d'expression, l'armée souligne que l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les diversions et les polémiques. Elle appelle la population à rester unie derrière les forces engagées et leurs partenaires, à éviter les discours de haine ou de démoralisation et à privilégier la paix et la cohésion nationale. En fait, les FRDC réaffirment leur soutien, leur confiance et leur encouragement à tous les responsables militaires engagés dans la mission de défense de la République.
Et puis, la question d'un meilleur encadrement du travail domestique en République démocratique du Congo s'invite à l'Assemblée nationale. Le député national Prince Kangila Kawele a déposé vendredi une proposition de loi modifiant le code du travail afin d'intégrer un régime juridique spécifique au personnel domestique. Chauffeurs personnels et femmes de ménage figurent parmi les travailleurs concernés par cette réforme qui vise à formaliser un secteur encore largement dominé par l'informel et à renforcer la protection sociale de ces employés souvent exclus des mécanismes classiques de régulation du travail. Les détails avec Grace Hamza.
À travers cette initiative, l'élu de Tchangwa Kinshasa entend moderniser le code du travail en y intégrant des dispositions spécifiques applicables au personnel domestique, un secteur considéré comme essentiel dans le fonctionnement de nombreux ménages congolais, mais encore peu encadré sur le plan légal. Pour Prince Kangila Kawele, cette réforme vise notamment à réglementer les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, tout en garantissant davantage de dignité et de protection sociale à cette catégorie de travailleurs.
Par personnel domestique, il faut entendre les chauffeurs personnels, les nounous, les femmes de ménage, les gardiens des parcelles, tout ce monde-là. Aujourd'hui, c'est un secteur qui évolue dans l'informel et nous avons voulu formaliser cela. C'est question de réglementer les relations entre les travailleurs domestiques et son patron. C'est question de se rassurer que les travailleurs domestiques ont droit aux soins de santé, à un traitement décent.
Selon lui, le texte prévoit notamment un meilleur encadrement des conditions de travail, des modalités de rémunération ainsi que l'accès aux soins de santé et à certains droits fondamentaux pour ces travailleurs longtemps marginalisés. D'après plusieurs observateurs, à Kinshasa par exemple, le travail domestique occupe une place importante dans le secteur informel et fait vivre de nombreux ménages, un secteur porté en grande partie par des femmes et des jeunes issus de milieux précaires.
Province du Tanganyika, la mesure de la fermeture des activités de pêche sur le lac Tanganyika pour une période de 3 mois provoque une vive inquiétude au sein de la population. D'après des sources locales, cette décision aura des conséquences socio-économiques sur le quotidien des habitants car une grande partie de la population dépend de la pêche et du commerce de poissons du lac Tanganyika pour sa survie. Le point avec Paulin Munanga.
Les pêcheurs, les marchands et les transporteurs de poissons ainsi que d'autres acteurs de cette filière craignent la paralysie des activités durant la période des 3 mois de fermeture de la pêche sur le lac Tanganyika. Quelques habitants de Kalemie s'expriment à ce sujet. Il n'y a pas de travail. C'est souvent les femmes qui fournissent des efforts. Elles vont acheter les poissons au lac et vont les revendre pour permettre aux enfants d'étudier et payer les loyers. Ils prennent la décision de fermer le lac. Est-ce qu'ils donnent d'autres travaux à la population. Comment allons-nous vivre? Nous refusons cette décision de fermer le lac. Tanganyika est l'unique grande entreprise que nous avons à Kalemie et c'est l'unique espoir. Depuis l'époque de nos ancêtres, nous n'avons jamais entendu que le lac Tanganyika a été fermé. Nous les supplions de revoir cette décision, sinon nous allons souffrir avec la recrudescence du banditisme. Signalons que le ministre provincial de la pêche du Tanganyika, Raphaël Mpungwe, est attendu le 20 mai prochain à l'Assemblée provinciale pour répondre à une question d'actualité initiée par le député Boniface Kabongo au sujet de la fermeture de la pêche sur le lac Tanganyika. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, avant d'aller plus loin, la question des inondations fluviales était au centre d'un atelier de 2 jours la semaine passée au centre des ressources pour enseignants de Kindu. Plus de 40 acteurs étatiques, humanitaires et de la société civile ont analysé cette question des inondations fluviales au chef-lieu de la province. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. On écoute l'un des organisateurs, Bilambo Malonga Blaise, qui revient sur ces recommandations dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Il y a eu une grande participation et il y a eu beaucoup de recommandations. Par exemple, pour les derniers jours ici, nous avons rédigé la note de plaidoyer. Les participants ont recommandé qu'il y ait un nouvel arrêté pour déguerpir tout le monde qui vit dans les abords, les riverains des fleuves Congo ou soit des rivières, les zones inondables. Il y a eu les recommandations de faire la cartographie d'abord de tous ces gens. Il y a eu les recommandations de doter les services techniques parce qu'il y a des services techniques qui sont incapables, qui ne sont pas opérationnels parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils. Il y a eu des recommandation de mettre les services en collaboration parce qu'il y a beaucoup de services qui travaillent en désordre et cela fait que les services deviennent inefficaces. Si tout le monde là fait quelque chose, c'est que c'est la solution qui sera là. Parce que la façon dont tout a été abordé, les contextes, les problèmes, les demandes, les recommandations, c'était bien adressé à chacun. Et que tout le monde, s'il met sa main à la pâte, nous sommes sûrs qu'il y aurait une bonne solution.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient. Au moins 19 personnes ont été tuées au Liban dans des frappes israéliennes ces dernières 24 heures. Au dernier jour de la trêve qui a été prolongée de 45 jours lors des négociations directes libano-israéliennes à Washington les jeudi 14 et vendredi 15 mai. L'armée israélienne a mené des dizaines de frappes dimanche contre les localités du sud Liban alors que les Hezbollah a multiplié ses attaques sur les champs de bataille libanais et dans le nord de la Galilée. Un incendie s'est déclaré proche de la centrale nucléaire de Baraka visée par un drone aux Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi a qualifié la frappe d'escalade dangereuse, un acte d'agression inacceptable et une menace directe à la sécurité du pays. Malgré la prolongation du cessez-le-feu décrété le 17 avril, Israël a continué à bombarder le sud du Liban et les Hezbollah a affirmé avoir touché une cible militaire dans le nord d'Israël.
L'invité.
Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle touche un adulte sur 3 et tue environ 9 millions de personnes par an dans le monde, ce qui équivaut à plus de 24 000 décès par jour. Cette maladie, appelée aussi tueur silencieux, constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Pour en parler, nous recevons le docteur Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence secondaire de Kinkanda au Congo central. Il s'entretient avec Élise Kavira.
Bonjour docteur Baka. On entend souvent parler de l'hyper et de l'hypotension. En des termes plus simples, comment pouvez-vous nous expliquer cela?
En des termes simples, l'hypertension artérielle peut être définie comme une élévation des chiffres tensionnels. L'hypotension artérielle, c'est plutôt une diminution de la pression du sang en deçà des limites normales, et cela de manière durable.
Pourquoi appelle-t-on cette maladie un tueur silencieux?
C'est une maladie qui est appelée tueur silencieux parce que pendant une longue période, la maladie peut déjà s'installer sans donner une symptomatologie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, la découverte est fortuite en milieu hospitalier.
Qu'est-ce qui cause l'hypertension?
Sur les 100% des patients hypertendus, chez 90 à 95%, il y a ce qu'on appelle les causes primaires. Donc ça veut dire que c'est inconnu. Donc il y a plutôt des facteurs favorisants. D'abord l'alimentation, avec une consommation excessive en sel, la prise d'alcool, l'hérédité. Mais également il y a le mode de vie, la sédentarité, l'augmentation du stress. Dans notre vécu quotidien, nous sommes soumis de plus en plus à un stress important. Ici, il faut noter que avec l'âge, il y a le vieillissement des vaisseaux. Et donc, ces vieillissements peuvent également baliser un peu le chemin pour qu'il y ait éclosion d'une hypertension artérielle. Et de l'autre côté, il y a les maladies qui peuvent entraîner l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance rénale, les maladies endocriniennes. Nous avons également la prise de certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout ça, ce sont des causes secondaires qui peuvent entraîner la survenue de l'hypertension artérielle.
Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par l'hypertension Est-ce que les enfants sont également touchés par cette maladie?
Là où nous avons un pourcentage élevé des patients, c'est en tout cas au-delà des 60 ans, des 65 ans. Et comme c'est un tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut déjà commencer, déjà à partir des 30 ans, jusqu'à donner une symptomatologie plusieurs années après. Mais nous notons aujourd'hui, avec la modification des habitudes alimentaires, de plus en plus, nous avons des cas d'hypertension artérielle en pédiatrie, pratiquement chez les enfants. Donc, et ça, c'est vraiment inquiétant, nous devons le signaler, parce que aujourd'hui, avec les changements de style de vie, vous voyez aujourd'hui des enfants passer plusieurs heures devant la télé, cette sédentarité-là, ça influence. En tout cas, nous avons de plus en plus de cas d'hypertension artérielle chez les enfants.
Vous venez de parler des mauvaises habitudes à éviter. Inversement, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour se prémunir contre l'hyper ou l'hypotension?
Déjà, du point de vue alimentaire, il faut éviter les excès. Donc, il faut avoir une alimentation pauvre en sel, pauvre en graisse et pauvre en sucre. Éviter une prise excessive d'alcool. Réduire sensiblement votre stress, c'est un élément très important pour se prévenir de l'hypertension artérielle. Il y a certaines attitudes médicales qu'il faut adopter, comme avoir un tensiomètre à la maison, parce que c'est toujours important de contrôler sa pression artérielle dans un environnement où l'on se sent le plus à l'aise possible, parce que c'est toujours important de connaître ses différents paramètres, ses chiffres tensionnels, son poids, sa taille, son statut hémoglobinique. Donc, de plus en plus, il y a des informations médicales que nous devons connaître. Mais il s'y est de noter ici que vous pouvez prélever les chiffres tensionnels chez vous, mais il faut développer une culture du check-up. Il faut toujours prendre le temps de passer, consulter un médecin, se faire checker, parce que l'hypertension artérielle donne également des signes qui peuvent être confondus à une autre pathologie. Donc, quand vous voyez des maux de tête, une douleur thoracique, des troubles visuels, de la fatigue, ce sont des signes qui, lorsque vous les observez, il faut toujours consulter un médecin. Et aux patients déjà reconnus hypertendus, le conseil, c'est de respecter les traitements que le médecin a instaurés, prendre régulièrement ses médicaments. La cessation ou la suppression de la prise médicamenteuse est décidée par les médecins. Je profite d'informer à la population qu'il y a au mois de mai, pour nous qui sommes dans la ville de Matadi, nous avons initié un dépistage. Nous allons prélever auprès de 30 à 50 000 personnes les chiffres tensionnels. C'est une activité qui a commencé depuis samedi 16 mai. Nous en profitons pour demander à la population d'adhérer à cela, parce que c'est très important que vous puissiez connaître votre chiffre tensionnel, ou s'il y a déjà des problèmes, vous orienter pour que vous soyez suivi, consulté et soigné en bonne et due forme.
Docteur Georges Baka, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était donc notre invité, le docteur Georges Baka, directeur médical adjoint de l'hôpital public de référence secondaire de Kinkanda au Congo central, qui s'entretenait avec Élise Kavira. Et voilà qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Jules Mystère Bilandan Koumar et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.